Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Tête à tête hier soir à Kinshasa entre les léopards de la RDC et le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est après avoir décroché la quatrième place à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le chef de l'État a notamment exprimé sa fierté pour la performance sportive du 11 national. Les ministres, sénateurs, gouverneurs et autres autorités concernées par le cumul des fonctions ont désormais 7 jours pour choisir entre l'exécutif et le législatif. L'Assemblée nationale a procédé hier à la validation des pouvoirs de 477 députés élus lors des élections du 20 décembre dernier. Et puis, plusieurs quartiers de Kinshasa, jadis privés d'eau potable de la régie des eaux, sont aujourd'hui desservis. Cependant, d'autres éprouvent encore des difficultés pour s'approvisionner en eau. En cause, la vétusté de la tuyauterie de la régie des eaux. Pour en parler, nous recevons David Mutombo, directeur général de la régie des distributions d'eau. Madame, Messieurs, bonjour. Les joueurs de l'équipe nationale de la RDC ont été reçus lundi soir par le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est après avoir décroché la quatrième place à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a exprimé sa fierté pour leur performance sportive, mais aussi il a souligné un geste remarquable qui a marqué les esprits, tous couvrant leur bouche de la main avec les doigts sur la tempe, imitant une arme en signe de solidarité. Solidarité avec envers les victimes des violences dans l'est de la RDC. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait sélectionné par Élisée Chikota.
Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A.
Signalons qu'avant d'être reçu par le chef de l'État, le 11 national avait été accueilli avec enthousiasme au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa par leurs supporters. En rapport avec les manifestations contre des représentations diplomatiques ainsi que leur personnel à Kinshasa, la police nationale congolaise PNC annonce l'interdiction formelle aux mototaxis d'accéder à la commune de la Gombe. Ce, à partir de ce mardi 13 février, mesure annoncée hier dans la soirée à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par le ministre de l'Intérieur. Parmi les autres mesures figure l'interdiction de tout attroupement de plus de 6 personnes dans la Gombe. En plus, les vendeurs ambulants et les enfants en rupture familiale appelé Chegué ne peuvent plus opérer dans la Gombe. On écoute à ce sujet le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Mboula Kilimbalimba.
Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. Les revendeurs, évidemment. Et de trois, tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit.
Entre-temps, au Nord Kivu, les violents affrontements utilisant l'artillerie lourde sont signalés entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo depuis 5h30 ce mardi matin. C'est dans les environs de la cité de Sake, 27 km au sud-ouest de la ville de Goma. L'armée congolaise a organisé promptement la riposte pour freiner l'avancée des rebelles qui voulaient investir la cité. Le point de la situation avec vous, Gabriel Wamenya.
Nyandwi Martine, je suis habitante de Kabasi. Nous avons fouillé jusqu'à Saki.
Toutes nos excuses, nous sommes allés vite en besogne. Là, nous sommes toujours au Nord Kivu. On parle ici de plusieurs personnes déplacées provenant des différentes localités de Masisi, de Sake et ses environs, qui font partie des blessés par balles ou par des bombardements, qui suivent actuellement les soins à l'hôpital CBC Andosho. Radio Kapi a visité hier ces malades qui sont soignés par le programme des chirurgies du CICR. Ce projet prend en charge les blessés de guerre et ceux liés à la criminalité depuis 2010. À Goma. Certains d'entre eux ont accepté de témoigner et c'est le récit de Sifa Maguru.
Nyandwi Martine, je suis habitante de Kabasi. Nous avons fouillé jusqu'à Sake. C'est à Sake que j'ai été blessée comme ça par balle. J'ai été blessée dans les camps des déplacés. Toute ma famille a fui. Comme cette femme de 68 ans, ces personnes vulnérables pour la plupart traversent des situations traumatisantes. En plus d'être victimes de dégâts collatéraux consécutifs aux affrontements, ces habitants sont très affectés. De plus, ils ne savent même pas où se trouvent leurs membres des familles après plusieurs vagues de déplacements pour fuir les combats.
On m'appelle Kubuya Gervais. Je suis habitant de Sake. J'ai été blessé à la maison alors qu'on voulait se déplacer parce que la guerre était déjà très intense. C'est une bombe qui nous a blessés. Nous étions plus de 10. 2 sont morts sur place et l'autre est décédé en cours de route alors qu'on venait à l'hôpital. Et les autres sont dans d'autres hôpitaux. J'ai 24 ans et j'étais motard. Regardez tout ce que nous avons vécu. Nous demandons que la paix dans notre pays et notre cité de Sake.
Parmi ces blessés, beaucoup de jeunes hommes, des femmes et des enfants qui se retrouvent bloqués sur les lits de l'hôpital sans espoir de recouvrer leur mobilité. D'autres ont été carrément amputés. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons à Goma. Une rareté des produits vivriers en provenance de Minova, notamment des légumes, s'est fait sentir déjà sur le marché depuis une semaine. C'est depuis la coupure de la route Sake Minova sur la nationale numéro 2. Les vendeuses qui exercent ce petit commerce empruntent la voie lacustre par botte pour approvisionner la ville de Goma avec tous les risques. C'est la conséquence des affrontements qui opposent des rebelles du M23 au FARDC dans la région. Bernardine Diambou nous en parle.
Tous les produits vivriers agricoles, bananes plantains, patates douces, manioc, pommes de terre, les feuilles de manioc et autres légumes bio sont devenus rares sur le marché de Goma. Même le prix a haussé, indique cette vendeuse, Madame Belinda Foura.
Aujourd'hui, 6 patates à 2000 francs. Avant, c'était les 6 là à 1000 francs. Nous vendons 7 bananes plantains à 5000 francs. Le manioc, en tout cas, c'est encore pire parce que nous vendons 3 petits maniocs à 2000 et puis 3 autres aussi à 3000. Des gros manioc, on vend ça à 4 à 10 000 francs.
Cette vendeuse dit faire face à plusieurs risques pour amener la marchandise de Minova jusqu'à Goma par botte. Mais aussi, elle évoque les tracasseries, la multiplicité des taxes, notamment au port de Kituku.
Les difficultés que nous avons, c'est d'abord le risque que nous courons avec les bottes, ça peut se noyer et on n'aura pas de secours. La deuxième difficulté, c'est la hausse du prix sur le marché. Et puis, là-bas au port, quand nous voulons charger nos marchandises, dans le bot, là il y a trop de taxes, soi-disant des taxes de navigation, les propriétaires du port, les déchargeurs.
Madame Belinda ne jure que sur la fin de la guerre afin de mieux exercer son petit commerce. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Je vous le disais tantôt, les violents affrontements utilisant l'artillerie lourde sont signalés entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo depuis 5h30 ce mardi matin. C'est dans les environs de la cité de Sake, 27 km au sud-ouest de Goma. L'armée congolaise a organisé promptement la riposte pour freiner l'avancée des rebelles qui voulaient investir la cité. Gabriel Ouamenia.
Après plusieurs tentatives et toutes soldées par des échecs, les rebelles du M23 continuent leur manœuvre pour le contrôle de la cité de Sake. C'est ce qui explique la reprise des hostilités tôt ce mardi matin depuis 5h30. L'épicentre des affrontements se situe dans les collines de Murambi et environ surplombant la cité de Sake. Des sources anonymes proches de l'armée précisent que les FARDC appuyés par une artillerie lourde sont toujours visibles et maintiennent la pression sur les rebelles dans leurs positions initiales à Sake et ses environs. L'objectif est de barrer la route aux agresseurs rebelles qui veulent à tout prix contourner les positions des FRDC et investir la cité. Sur le front nord, en territoire de Nyiragongo, les sources de la société civile confirmées par les acteurs locaux, la situation reste fragile et imprévisible car tous les belligérants maintiennent toujours chacun ses positions dans les secteurs de Kibati pour l'armée, Bouumba et Kibumba pour les rebelles. Goma, Gabriel Ouamène, Radio Okapi.
Journée internationale de l'enfant africain, c'était hier 12 février. Radio Okapi s'intéresse cette fois à la situation des enfants affectés par les conflits armés dans la région de Beni, Butembo et Lubero dans le Nord Kivu. Nombreux d'entre eux, séparés des groupes armés suite aux efforts des FARDC et de la MONUSCO, sont pris en charge par l'ONG Action Concrète pour la Protection de l'Enfance, partenaire de l'UNICEF. Sadiki Aboubakar signe ce reportage.
Ils sont aujourd'hui 89, dont 16 filles des nationalités congolaises, burundaises et ougandaises prises en charge au centre de transit et d'orientation de l'ONG Akopé à Beni. Si certains ont été sortis des groupes armés ADEF, APCLS, CMC, FDLR et FPP bar AP, d'autres par contre ont été victimes de certaines violations graves des droits des enfants à cause des conflits armés dans la région. Cet enfant de 16 ans, sorti d'une milice où il a été combattant pendant 4 ans, revient sur son calvaire dans la brousse.
Je les aidais à puiser de l'eau, chercher le bois de chauffe dans la brousse et transporter de la nourriture de là où ils ont pillé jusqu'au niveau du camp.
Cette fille, qui vient d'avoir 18 ans, avait été violée par les rebelles du M23 à Bambo dans le territoire de Rutshuru avant de se retrouver enceinte de 3 mois. Aujourd'hui, elle ne connaît même pas l'auteur de sa grossesse.
Ils ont égorgé mon père et ma mère à ma présence et ont abusé sexuellement de moi. C'est plus tard quand je suis arrivé à Beni que je me suis rendu compte que j'étais tombé enceinte ce jour-là.
Cet enfant, 16 ans, est réinséré dans sa famille et a été combattant pendant 2 ans. Il dit apprécier sa nouvelle vie.
J'ai été bien accueilli chez nous. On m'a même donné du travail. Tous les enfants comme moi qui sont encore sous l'emprise de ces seigneurs de guerre, je leur demande de tout faire pour sortir. Dans la forêt, il n'y a que de la souffrance.
La MONUSCO et l'UNICEF apportent un appui pour l'intégration sociale de ces enfants séparés des groupes armés. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, le nombre des personnes déplacées de Kwamut au Maïndombe, accueillies dans différents villages du territoire voisin de Bagata, n'est fait qu'augmenter. À ce jour, il est passé de 5120 à plus de 10600, dont les femmes enceintes et les enfants non accompagnés. Ce sont des personnes qui ont fui les exactions de la milice Mobondo dans leur village à Kwamut. Leurs conditions de vie deviennent de plus en plus précaires. Ces personnes qui n'ont pas d'assistance passent nuit à la Belle Étoile et d'autres se retrouvent dans les écoles, églises ou encore des maisons inhabitées. Le ministère provincial des affaires humanitaires du Kwilu qui alerte lance un SOS au gouvernement et aux partenaires ainsi qu'aux personnes de bonne volonté afin de venir en aide à ces personnes vulnérables. Jérémy Bikiele, directeur de cabinet du ministre provincial des affaires humanitaires du Kwilu, explique au micro de Irène Boma.
À ce jour, nous sommes déjà à 10688 personnes déplacées, dont 4888 enfants, 3346 femmes, et dont 36 femmes enceintes, 2462 hommes et 6 enfants non accompagnés. Ils sont plus dans des villages du secteur Wamba, dans la cité de Fatundu, à Misai, à Fasila, à Fambondo, à Kibai, à Kingangu, à Mbukaka, à Kisibu et dans les autres villages. Ils vivent dans de très mauvaises conditions. Il n'y a aucune assistance car ces personnes ont tout abandonné, fuyant les attaques de Mobondo. Et donc nous sommes en train de lancer encore cet appel auprès des autorités nationales, au niveau international, auprès des partenaires humanitaires de pouvoir intervenir de façon urgente. Même dans la ville de Bandundu, nous avons encore des personnes déplacées, plus de 500 ménages dans le site de Malebo. Et la prise en charge n'est pas assurée jusqu'à ce jour.
Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a procédé hier lundi à la validation des pouvoirs de 477 députés élus lors des élections du 20 décembre dernier. Les ministres, sénateurs, gouverneurs et autres autorités concernées par l'incompatibilité stipulée à l'article 108 de la Constitution disposent désormais de 8 jours à compter d'hier pour choisir entre le mandat des députés et leurs fonctions actuelles. Si ces derniers ne renoncent pas à leurs fonctions actuelles dans le délai, ils perdront définitivement leur mandat électif au profit de leurs suppléants. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Sont concernés par cette mesure, conformément à l'article 108 de la Constitution, Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde et les autres membres de son gouvernement, dont Vital Kamerhe, Christophe Lutundula, Peter Kazadi, Jean-Pierre Liaou et Jean-Lucien Boussa, le président du Sénat Modeste Bahati et les autres sénateurs élus députés, ainsi que des gouverneurs des provinces, des ministres et députés provinciaux, sont aussi concernés par cette mesure. Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale.
Les débats qu'il y a eu au sujet de la validation des mandats. La discussion a porté sur l'ensemble de tous ceux qui sont concernés par les incompatibilités. Il n'y a pas eu d'exception et qu'il ne s'agissait pas de distinguer des membres du gouvernement. Nous avons respecté la loi, on a validé tout le monde. Maintenant, à dater d'aujourd'hui, il faut compter 8 jours. Je crois jusqu'à mardi à minuit. Nous devons bien faire les calculs. Chacun de nous est libre de choisir ce qu'il veut.
Après cette étape, le bureau d'âge doit maintenant s'attaquer à l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant d'organiser les élections et l'installation des membres du bureau définitif de cette chambre.
Direction le Kasaï oriental, signalons la poursuite à Mbujimayi des travaux d'asphaltage de l'avenue Monseigneur Nkongolo qui sépare les communes de Bipemba et de la Kanchi. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de cette route et pour les habitants qui longent cette avenue qui était devenue presque impraticable. Esther Ndalafina.
1000 mètres de l'avenue Monseigneur Kongolo viennent d'être asphaltés par l'entreprise Safimex. Les travaux d'asphaltage ont débuté vers la fin de la semaine dernière. Les 700 mètres restants de cette avenue seront asphaltés avant la fin de la semaine prochaine, affirme le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD. D'après ingénieur Trésor Kachala, ces travaux rentrent dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de 35 km de la voirie urbaine gagnée par l'entreprise de construction Safimex. Les usagers de cette route apprécient ces travaux qui ont rendu la circulation fluide.
Nous sommes contents à cause de ces ondes d'entrée de travail, ce qui n'était pas passé la fois passée. Notre route est devenue jolie.
Les habitants des maisons qui longent cette avenue affirment que la réhabilitation de cette route les a épargnés des maladies.
Vraiment, on est très contents pour voir notre avenue changer. On avait vraiment difficile de rester dehors comme ça. Il y avait des poussières. S'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas moyen de rester dehors. Et maintenant, ça va.
Signalons qu'après les travaux sur Monseigneur Kongolo, Safimex compte moderniser également l'avenue de l'hôpital général de référence de Dipumba dans la commune de la Kanchi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Restons sur les routes, cette fois au sud Kivu. La nationale numéro 5, dans son tronçon situé dans le territoire de Fizi, se trouve dans un état de délabrement avancé, difficile d'atteindre une distance de 10 km en une journée. L'administrateur de Fizi demande au gouvernement congolais de s'impliquer pour la réhabilitation de cette route, vu son importance économique capitale. Toujours au sud Kivu, on notait une journée ville morte qui s'observe ce mardi dans la partie nord de la ville d'Uvira, entre le rond-point et la frontière de Kavimvira avec le Burundi. La nouvelle société civile congolaise a appelé ainsi à une journée sans activité ni circulation sur ce tronçon routier de 6 km qui est dans un état d'impraticabilité dans la partie appelée communément zone neutre. Selon le président de cette structure citoyenne, Martin Mafikeri, l'objectif est d'interpeller la conscience des autorités urbaines et provinciales sur les difficultés qu'éprouvent les voyageurs sur cette route.
Actualité internationale.
Nous sommes au Soudan. Alors que la guerre se poursuit dans le pays, les femmes et les filles apprennent des nouvelles compétences dans un camp d'entraînement au combat installé dans une ancienne cour d'école. Près de la moitié des espèces migratrices de la planète connaissent un déclin dramatique en raison de la pollution et du changement climatique. C'est ce que révèle une nouvelle étude des Nations Unies portant sur 1200 espèces dans le monde.
L'invité.
À Kinshasa, plusieurs quartiers qui n'étaient pas desservis en eau potable de la régie des eaux sont aujourd'hui alimentés à la grande satisfaction des Kinois. C'est le cas des quartiers des communes hautes de Ngaliema, Mongafula et Selimbao. Cependant, d'autres quartiers continuent à éprouver d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau potable suite à la vétusté de la tuyauterie de la régie des eaux. Nous en parlons avec le directeur général de la régie des distributions d'eau, David Mutombo, s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Monsieur David Mutombo, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs mois après votre prise de fonction à la régie des eaux, quel bilan pouvez-vous faire vous-même de la mise en œuvre de votre plan de relance de cette société que vous avez retrouvée par terre?
Bon, merci pour la question. Et je crois que c'est une question qui intéresse beaucoup de nos concitoyens. La régie des eaux, c'est une société en difficulté sérieuse. Et quand nous sommes arrivés à la régie des eaux, en fait, la régie des eaux était dans un état calamiteux. C'est une compagnie qui était, à mon avis, totalement en faillite et qu'il fallait très vite mettre debout pour qu'elle soit capable de fonctionner. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans ce sens pour résoudre beaucoup de nos problèmes internes à la régie des eaux, mais aussi les problèmes liés à la desserte de l'eau sur l'ensemble de la République. Le travail n'est qu'au début parce que les dommages qui ont été causés dans le passé se sont étalés sur plusieurs années et c'est ça que nous cherchons à affecter au maximum pour qu'on soit capable d'en tirer la meilleure valeur, en tirer la meilleure performance.
Alors, les performances sont justement vérifiables sur terrain. Nous avons essayé de vérifier dans plusieurs quartiers où l'eau ne coulait presque plus, notamment dans la commune de Selembao. La population témoigne être vraiment gâtée. L'eau de la régie des eaux est là et elle n'a plus de difficultés pour payer les factures. Mais il y a certains quartiers où les difficultés perdurent. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, merci à nos abonnés. Comme j'ai toujours dit, vous êtes la raison fondamentale pour laquelle nous sommes ici à la régie des eaux, c'est vous servir. Et je suis désolé d'apprendre, et je le sais déjà en avance d'ailleurs, que certains quartiers n'ont pas de l'eau, mais le nombre des quartiers qui ont de l'eau a sûrement augmenté. Pour ceux qui n'ont pas de l'eau, je vais commencer par Kinshasa, particulièrement au mois de novembre, au mois de décembre, les inondations que nous avons connues à Maluku, à Kingaboa, dans d'autres zones de la ville, nous avons eu des érosions particulièrement à l'ouest de la ville où des sections entières des routes ont exposé quelques-unes de nos plus grandes tuyauteries. Dans la ville de Kananga, nos abonnés n'ont pas de l'eau depuis plus d'un mois parce que toute la station de traitement de Chibashi était sous eau. Mais je voudrais dire, et ça je le dis à la nation congolaise, la régie des eaux n'a pas la capacité de donner de l'eau à tout citoyen congolais. Nos installations ont une capacité de production inférieure à la demande. C'est pourquoi il y a une multitude de projets qui sont initiés pour augmenter cette capacité.
Vous devez renouveler le réseau de distribution qui date de depuis la colonisation. Vous devez renforcer la capacité de production. Vous devez faire face aux intempéries. C'est beaucoup trop de problèmes. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour réaliser tous ces projets?
Merci. La question, elle est très complexe elle-même, parce qu'il n'y a pas une réponse aussi simpliste qu'elle soit. De manière générale, il y a des efforts qui sont fournis, mais les moyens sont limités par rapport aux besoins. Pour qu'on puisse résoudre les problèmes d'eau au Congo, il faut des investissements de l'ordre de 9,5 à 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'investissement dans le secteur de l'eau au pays, il est très petit. Il est parfois même moins de 50 millions de dollars par année. Donc, à cette allure, on y arrivera. Vous avez parlé de la tuyauterie. Je vous informe que nous avons un projet en cours pour construire la plus grande usine de tuyauterie de l'Afrique centrale. Elle sera construite ici à Kinshasa. Nous espérons qu'on pourra commencer les travaux cette année pour résoudre une fois pour toutes le problème des conduites, particulièrement à Kinshasa, où nous avons des milliers et des milliers de kilomètres de tuyaux à remplacer et séparer à l'intérieur du pays.
Nous savons que le gouvernement est le plus grand consommateur de la régie des eaux. Il vous doit combien ? Et comment il paye sa dette?
Vous me posez des questions très difficiles, mais je vais quand même vous répondre. Le gouvernement consomme une grande partie de la production de la régie des eaux, plus de 40%. L'année passée, les paiements n'ont presque pas existé sur une facture de plus de 90 millions, je parle en dollars. Nous avons eu 10 millions, mais je crois qu'il y a quand même de la volonté parce qu'on nous a quand même donné 10 millions et ça nous encourageons et nous allons continuer les discussions avec le gouvernement pour qu'on y arrive. Et parfois, je regarde les résultats financiers qu'on a eus en 2023. C'est la première fois que nous faisons un profit à 1 million de dollars. Comment nous y sommes même arrivés parce que nous perdons le chiffre d'affaires à plus de 40% chaque jour. Il faut que nous puissions cesser avec la culture des ayants droit, que nous puissions cesser avec la culture de ceux qui consomment et qui ne payent pas. Et de manière générale, ce sont ceux qui ont les moyens qui ne veulent pas payer.
Monsieur David Mutombo, je vous remercie.
Merci à vous.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.